Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le Dalaï Lama est donc en visite depuis quelques jours en France. Il est arrivé le 12 septembre, il repartira le 18. Hier, il accordait une audience collective aux Tibétains exilés en France. Pourtant, il ne bénéficie que d'une seule rencontre officielle au Sénat avec des parlementaires du groupe d'information sur le Tibet, puis d'une réception à l'hôtel de ville de Strasbourg. Bonjour Jean-François Dimeglio.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Asia Center, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin. Vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Pékin Nostalgie ». Pourquoi, puisque vous parlez de Pékin Nostalgie, cette timidité avec le Dalaï Lama et cette volonté des officiels français de l'éviter ?
Cette timidité, elle est générale. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul chef d'État qui rencontre le Dalaï Lama, c'est Barack Obama. Et ça en dit long sur la montée en puissance de ce qu'on peut appeler l'influence chinoise, à toutes sortes de titres. La Chine ne veut pas mélanger le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, ou à l'inverse, elle considère que puisqu'il n'y a pas de mélange au Tibet, le Dalaï Lama n'a pas vocation à rencontrer des gens qui pourraient effectivement n'avoir de relation qu'avec le pouvoir temporel chinois, en l'occurrence donc les dirigeants chinois.
Alors que redoute-t-on, quelles pourraient être les mesures de rétorsion de la Chine ?
Il n'y en aura pas, puisque précisément le Dalaï Lama n'aura que des rencontres intellectuelles ou spirituelles en France. En revanche, on a un historique effectivement de sanctions et de mesures de rétorsion lors des dernières rencontres à un niveau plus élevé, puisque David Cameron a payé un prix très fort en son temps, qui a valu d'ailleurs la grande réconciliation de l'année dernière du Royaume-Uni avec la Chine, en tournant cette page. La France aussi, en 2008, lors de la rencontre non pas du chef d'État, mais de Carla Bruni-Sarkozy avec le Dalaï Lama, a dû annuler un sommet Europe-Chine qui devait avoir lieu à Lyon fin 2008 et qui a été reporté en 2009 en République tchèque. Donc on sait aujourd'hui que la montée en puissance de l'influence chinoise, dont l'un des éléments, c'est le refus d'autoriser des dirigeants européens, des dirigeants de toutes sortes de pays à rencontrer le chef spirituel des Tibétains, on reviendra probablement sur cette notion, bien que cette influence est en ascension et qu'aujourd'hui, finalement, la Chine a gagné d'une certaine façon.
Alors, on a bien compris qu'il y avait une ligne jaune, ou plutôt une ligne orange, en l'espèce, avec le Dalaï Lama. On aimerait comprendre pourquoi il y a un enjeu de puissance, il y a un enjeu géopolitique. Pourquoi la Chine est-elle autant attachée à la question tibétaine ? Expliquez-nous, Jean-François Dimeglio.
Alors, on peut faire plusieurs parallèles, mais avant de faire plusieurs parallèles, effectivement, il faut revenir à l'histoire spécifique de ce territoire. Ce territoire a été effectivement indépendant de 1911 à 1950. Et quand je dis ce territoire, c'est en fait un territoire qui est même plus grand que ce qu'on appelle aujourd'hui la région autonome du Tibet, puisque la région autonome du Tibet ne représente qu'une partie du Tibet géographique. D'autres provinces chinoises, en particulier le Qinghai, recouvrent ce qui est le plateau tibétain. Et donc c'est à ce titre que la Chine, récupérant l'ensemble de ces territoires en 1950 et par des actions violentes, dénie au Dalaï Lama, chef spirituel mais chef politique aussi du Tibet, la possibilité d'avoir des relations extérieures. Donc le Dalaï Lama s'exile, comme on le sait, à Dharamsala en Inde. Et en 1959, il y a la première guerre ou répression très forte contre le Tibet. Ça, c'est le fait historique. Et à l'intérieur de tout ça, ce que la Chine explique, c'est que le Tibet est un État féodal, que les États féodaux, que les pensées féodales n'ont pas de place dans la Chine actuelle, et c'est à ce titre-là qu'effectivement la Chine lutte contre l'idéologie tibétaine. Mais vous savez, il y a un parallèle qu'on peut faire et qui montre un peu la différence entre le comportement chinois et le comportement d'autres pays. Finalement, vous savez, nous, on a, au début du 19e siècle, emprisonné un pape. Et l'Italie s'est battue contre les États du Vatican. Et l'un des combats de Garibaldi pendant l'unité italienne, c'était justement de récupérer. Et donc on pourrait comparer ça, mais on n'est jamais allé aux extrêmes où la Chine va aujourd'hui.
Mais il y a peu de temps, en 2014, le Dalaï Lama disait justement que l'attitude de la Chine était en train d'évoluer. Écoutons-le.
Xi Jinping, sa visite, lorsqu'il est venu en France, il a dit publiquement, il a exprimé le fait que le bouddhisme avait un rôle très important à jouer dans la préservation de la culture chinoise et la promotion de la culture chinoise. Et des déclarations semblables ont déjà été faites à Delhi. Mais c'est quelque chose d'inhabituel. Un communiste, vous savez, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant athée. Donc le dirigeant du parti athée, traditionnellement, vous savez, il y a eu plusieurs occasions où délibérément on a tenté d'éliminer la foi bouddhiste. Eh bien, que ce parti-là fasse des louanges au bouddhisme, c'est quelque chose de nouveau, d'inhabituel.
Votre réaction, Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Center, a-t-on affaire à une attitude plus tolérante de Pékin vis-à-vis des religions ?
Il y a effectivement une attitude plus tolérante vis-à-vis des religions, pour autant, et ça s'applique aussi à toute la mouvance chrétienne, qu'elle reconnaisse Pékin comme, en quelque sorte, le sponsor, le parrain et le superviseur des religions. Encore une fois, on a dans notre histoire française des parallèles. À partir du moment où une religion s'érige en contre-pouvoir ou en institution qui peut défier un certain nombre de décisions ou un certain nombre d'éléments de souveraineté, eh bien là, Pékin n'est plus d'accord. On est dans une situation, encore une fois, semblable à celle des débuts de notre Révolution française, à laquelle est mise fin avec le Concordat, mais bien sûr à la puissance 2 ou 3, parce que la souveraineté pour Pékin, c'est quelque chose qui ne se partage pas, et le Tibet, pour Pékin, s'est mis au même plan dans la pensée politique que Taïwan. Donc quand on met ces deux éléments l'un en face de l'autre, on voit bien que Taïwan, il n'y a absolument aucun élément religieux, que le Tibet, il y a un élément religieux, donc on est vraiment dans l'ordre de la souveraineté.
Une souveraineté donc qui ne se négocie pas. Un problème de religion, vous l'évoquiez tout à l'heure, on le voit également pour le Xinjiang et la question musulmane en Chine, Jean-François Di Meglio.
Simplement, le Xinjiang et toute la question musulmane en Chine ne présente pas le même défi puisqu'il n'est pas unifié. L'une des forces, d'une certaine façon, du Dalai Lama et de ceux qui l'ont précédé, c'est de réunifier tous les courants tibétains. Il y a un certain nombre de courants tibétains, il y en a au moins 5. L'histoire tibétaine est faite de violences entre tibétains qui, justement, arrivent à se réunir autour d'un Dalai Lama qui représente l'une des mouvances. Au Xinjiang, ça n'est pas le cas. Mais il est évident que le fait religieux en Chine reste à la fois un défi et peut-être une opportunité si jamais une voie de réconciliation est trouvée. Mais notez aussi que même avec l'Église nationale catholique, cette réconciliation n'est pas totalement effectuée puisqu'on a encore des évêques qui sont nommés par Pékin, des évêques qui sont nommés par Rome et une dissension entre les deux ou les trois églises qui existent en Chine.
Vous parlez d'une histoire violente, ce qui veut dire que la non-violence est une invention récente, ou en tout cas est popularisée depuis une date récente par le Dalai Lama, Jean-François Di Meglio.
Une réponse facile serait de dire que la violence n'a pas d'âge dans l'humanité, mais la vraie réponse est que les Tibétains affirment que les deux principales stratégies qui ont été inventées au XXe siècle, sont effectivement la stratégie nucléaire et la stratégie de la non-violence. Donc, il s'agit bien d'une arme, d'une certaine façon. C'est une arme qui est très puissante, puisque quand Pékin voit des moines tibétains s'immoler, bien Pékin, aussi paradoxal que ça puisse tout paraître, considère que c'est un acte de quasi-guerre contre Pékin. La violence a existé assurément en réponse aussi à la violence chinoise en 1959. On ne peut pas dire que la société tibétaine, comme n'importe quelle société, soit exempte de violence, mais il est évident que l'image du Dalai Lama n'incarne plus du tout aucune forme de violence et que quand on entend le Dalai Lama, il faut vraiment avoir l'ouïe extrêmement fine pour aller dénicher des paroles de violence dans les propos du Dalai Lama.
Il y a aujourd'hui une vraie timidité des politiques français qui ne veulent pas recevoir le Dalai Lama. Il y en a peu, voire quasiment pas, qui prennent la parole pour, en revanche, le critiquer ou critiquer sa politique. Il y a quelques exceptions. Celle, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, c'était le 25 mars 2008, au matin de France Culture, au micro d'Ali Badou.
le dialogue que nous devons avoir avec les Chinois, pour qui s'intéresse un tant soit peu à la Chine, qui connaît un tant soit peu les Chinois, et permettez que je puisse dire que je connais, pas plus que vous bien sûr, ni que n'importe quel journaliste qui en sait plus que moi, mais que je connais aussi un peu la Chine, je pense que c'est une provocation qui va blesser inutilement et provoquer un nationalisme tout à fait exacerbé. C'est absurde, ce n'est pas de cette façon qu'il faut... Après, vous me permettrez aussi de dire que je n'ai pas non plus de sympathie particulière pour le régime théocratique que représente le gouvernement des moines au Tibet. Voilà, j'ai aussi le droit d'avoir cette opinion, même si je reconnais qu'elle est un peu iconoclaste et que je n'ai aucune sympathie pour le régime de servage qui a prévalu jusqu'en 1959 au Tibet. Toute chose naturellement dont on ne parle jamais, car on fait comme si l'armée rouge avait envahi le Tibet en 1959 et qu'auparavant, il n'y avait pas un Chinois dans le secteur. Ils sont là depuis le XIVe siècle.
Alors, d'où vient ce type de position? On a entendu celle de Jean-Luc Mélenchon et il y en a d'autres de par le monde, des gens qui, effectivement, sans critiquer véritablement le Dalai Lama parfois, en tout cas, soutiennent l'occupation chinoise. C'est une occupation quand même.
C'est une occupation. Il y a une population qui est apparentée à la population chinoise, mais qui est distincte. Bah, le mot théocratique, on ne peut
mais
pas...
Mais qui ne souhaite pas du tout être, par ailleurs, sous contrôle chinois, ce qui est...
Sous contrôle et, je dirais, sous influence, parce qu'il y a une culture tibétaine. Le fait d'accepter que la religion tibétaine, qui a été d'ailleurs la religion officielle de la Chine pendant la dynastie Mandchou, que la religion tibétaine... Eh bien, eut une influence sur la population chinoise. Je pense que c'est un élément aussi de pacification de la société. En revanche, dans le propos qu'on vient de citer de Jean-Luc Mélenchon, il faut retenir deux choses. Il faut retenir effectivement le mot théocratique. On ne peut pas nier que le régime tibétain soit un régime théocratique. Aujourd'hui, pour autant que ce régime existe, il ne serait pas le seul dans le monde. On a quand même d'autres... Et que Jean-Luc Mélenchon s'élève contre des régimes théocratiques ou s'élève contre l'influence du religieux sur le politique, je dirais c'est un peu le job de Jean-Luc Mélenchon. Donc il est tout à fait dans son rôle quand il nous parle de cette façon. Non, la réalité tibétaine est extrêmement complexe effectivement, du fait bien sûr du régime très spécifique de Pékin, du fait que le Dalai Lama est considéré comme en exil en Inde, ça n'est pas n'importe quoi aussi d'être de l'autre côté de la frontière, d'être en Inde, et puis aussi parce que eh bien le mouvement tibétain est pluriel et qu'il y a effectivement des éléments belliqueux ou en tout cas qui souhaitent que le Tibet redevienne en partie ce qu'il est. Aujourd'hui, la ligne politique du Dalai Lama, c'est tout à fait clair, vous avez évoqué cette volonté de conciliation, la ligne politique du Dalai Lama, c'est de dire qu'il ne revendique pas l'indépendance du Tibet, ce qui serait le vrai défi à Pékin. Or, ce défi n'existe plus, il réclame une autonomie. Pékin peut répondre en disant que le Tibet est effectivement une région autonome et à cela les Tibétains répondent que c'est une région autonome qui est de plus en plus occupée et on va dire colonisée au sens où on envoie des populations Han, comme on dit, c'est-à-dire des populations chinoises. Quand vous allez vous balader à Lhasa, eh bien c'est de plus en plus une ville chinoise, ou en tout cas il y a une ville chinoise, et il faut aller dans d'autres coins du Tibet pour retrouver, on va dire, un Tibet à l'état pur.
Jean-François Dimeglio, on lit de ci, de là, que la cause tibétaine est moins populaire qu'auparavant. Le mouvement Free Tibet, qui jadis était extrêmement important, semble un peu assoupi. C'est votre opinion également?
Il est vrai aussi que, comme on peut le voir pendant cette visite, la visite du Dalai Lama en France est... un degré en dessous des autres visites en termes de publicité. Il y a une réelle politique de la part des Tibétains qui voit bien que c'est relativement difficile. Vous savez que le Dalai Lama lui-même a indiqué qu'il ne nomme pas son successeur, puisque comme vous le savez, le successeur arrive lorsque le Dalai Lama meurt, mais qu'il ne souhaitait pas forcément avoir un successeur. Donc naturellement, tout ça affaiblit ce qui a pu être la position que vous décrivez comme Free Tibet.
Est-ce que c'est la volonté plus ou moins explicite du Dalai Lama ou est-ce que le monde a oublié cette cause? D'autres occupations, par exemple l'occupation israélienne, déclenchent toute une série de discours, de protestations. Pourquoi semble-t-il y avoir un deux poids, deux mesures avec le Tibet?
Je pense que la réponse très simple. C'est indéniablement, et quand on refait l'historique des rencontres entre chefs d'État et le Dalai Lama, la montée en puissance de ce qu'on appelle l'assertivité chinoise. Aujourd'hui, la Chine joue son rôle de deuxième puissance mondiale. On sait que dans les obsessions chinoises, il y a ce sujet tibétain, et donc ça peut expliquer en grande partie la différence de traitement entre ce que vous décrivez comme les sujets palestiniens, où on voit qu'effectivement le monde arabe est loin d'être considéré comme une puissance secondaire dans le monde, et en revanche la Chine, une puissance principale, avec une de ses obsessions, le Tibet.
Au-delà du Tibet, on a vu également cet été, Jean-François Dimeglio, une intense activité de la Chine en matière de politique extérieure, avec un certain nombre de sujets qui nous paraissent très éloignés, comme par exemple les îlots philippins qui sont aujourd'hui disputés, que la Chine réclame, même si un tribunal international a dit que la Chine n'avait aucun droit sur ces îlots. Cela signifie-t-il que la Chine entend jouer aujourd'hui un rôle de puissance mondiale, à la fois donc sur le plan économique, ça c'est le cas, mais aussi sur le plan géopolitique?
Mondial non, régional certainement. La Chine reste dans cette logique de reconquête de son influence géopolitique, mais elle est tout à fait consciente que si elle était entraînée trop vite dans un rôle d'influence géopolitique globale, eh bien, elle serait en face des limites de ses propres moyens. Aujourd'hui, ces moyens, ce sont des moyens d'intervention dans la région. Ce sont des moyens de compréhension aussi de ce qui se passe dans la région. Mais la Chine, aujourd'hui, est dans une logique de tout le territoire chinois, rien que le territoire chinois. Or, ce territoire chinois, historiquement, il a occupé une place beaucoup plus grande que ce qui est la Chine utile aujourd'hui, c'est-à-dire 9 millions de kilomètres carrés, la mer de Chine du Sud dans l'esprit de la Chine. Mais il faut se rappeler que la République de Chine, et non pas la République populaire de Chine, dès 1912, intégrait cette fameuse mer de Chine du Sud dans ses cartes. Il y avait la ligne des 11 points. Et donc la Chine se met dans une logique historique, qui est d'ailleurs celle qu'elle utilise à propos du Tibet aussi. Mais on est dans une logique régionale, on n'est absolument pas dans une logique de confrontation globale, on est simplement dans la volonté de dire il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire aujourd'hui, mais que nous ne pouvions pas faire autrefois. Et pour en revenir à l'histoire du tribunal arbitral, la Chine considère que le fait historique prévaut sur le fait juridique.
Ce qui veut dire que la culture du droit, en tout cas à cet égard, n'est pas encore complètement...
Elle a du chemin à faire.
On vous retrouve vers 8h15, Jean-François Dimeglio, vous serez rejoint par Lélie Envin. Et cette fois-ci, on parlera spiritualité, on essaiera de s'interroger sur les raisons de la popularité du bouddhisme en France et dans le monde. Et on fera aussi un peu de pédagogie pour expliquer ce qu'est véritablement le bouddhisme. En attendant, il est 8h sur France Culture.